Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archie Podcast Season 3.
Saison 3, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archie.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Pierre Champenois. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archie. Vous êtes architecte. Vous avez été quelques années collaborateur de Christian Ovett. Puis vous fondez votre propre agence Champenois Architecte. Donc, 10 ans Christian Ovett et 10 ans votre agence, c'est ça?
Exactement. Bon. En fait, cette année, les 10 ans d'existence de Champenois Architecte.
Bon. Votre agence, je cite, a pour vocation de concevoir et de réaliser tout type de programme à des échelles variées. Vous attachez beaucoup d'importance à inscrire chacun de vos projets dans une démarche environnementale complète. Intégrer le projet architectural dans son environnement pour qu'il améliore les conditions existantes du lieu. Construire avec des matériaux nobles et solides pour qu'ils soient capables de résister efficacement au climat et aux intempéries. Enfin, équiper techniquement le bâtiment pour qu'il consomme le minimum d'énergie et apporte le maximum de confort. Vous avez livré en 2021 une opération de logement, 87 habitations bas carbone en accession et jardin couvert à Bru, près de Rennes, c'est ça?
Exactement.
Opération emblématique de votre production.
Tout à fait. Et emblématique pour le maître d'ouvrage également, le groupe Launay.
D'accord. Qui est, oui, implanté dans la région rennaise. Hein,
exactement.
Oui. Ouais. On va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études?
Ah. Et ma jeunesse a été assez agité, on va dire. Disons, j'ai une jeunesse de nomade. J'étais élevé par des parents qui vivaient pleinement les années 70 et qui m'ont trimballé comme ça de région en région. Je me rappelle à l'âge de 20 ans, j'avais fait le calcul de nombre de lieux dans lesquels j'avais habité et il y en avait au moins autant que le nombre d'années que j'avais. C'est-à-dire que j'avais déménagé au moins une fois par an en moyenne dans ma jeunesse. Et je dirais que peut-être ça a forgé en moi le besoin d'un peu de stabilité et peut-être une certaine culture aussi de la maîtrise de son environnement, puisque à chaque nouveau lieu, il faut se réinvestir, se réapproprier les usages, les lieux, les gens, dans un environnement complet, quoi. Donc peut-être que ce désir d'architecture a été nourri par cette enfance un peu chahutée,
itinérante. Et toujours en France?
Toujours en France, ouais.
Et dans une région où
Alors ça a commencé, bougé. Le périple a commencé à Nantes,
Ah oui.
Où je suis né. Alors c'est étonnant, bon, c'est une petite anecdote, mais c'est une époque où tout était possible. Je suis né chez une voisine de la sage-femme qui suivait ma mère, qu'elle avait rencontrée en stop. Je lui ai demandé si elle pouvait accoucher chez elle. Voilà. Elle a accouché dans une. Donc je suis né dans une maison, ça.
Ça commençait déjà.
Ça a commencé déjà. Voilà. Quand elle y est restée quelques jours, le temps de s'en remettre, et puis après on a déjà fait un premier déménagement.
Donc, vous savez dans quel quartier, non?
C'était à Orvault, dans la banlieue nantaise, une petite commune limitrophe. Mmh. Et puis après, on est parti dans la presqu'île guérandaise, dans plusieurs habitations. Puis ensuite, ils se sont installés dans le Périgord. Pareil, j'étais un peu l'enfant des bois. Et je pense que ça aussi, ça a été un moment assez marquant de mon enfance. C'était la vie au milieu des bois. Mais vraiment au milieu des bois. Pour l'époque, aujourd'hui, rétrospectivement, on se dit que c'est assez étonnant. Pour autant, on vivait au milieu des bois, sans eau, sans électricité et sans le téléphone, bien entendu. Il y avait une source et puis une petite bergerie qui était là. Et j'y ai passé ma tendre enfance et toutes mes vacances après, puisque c'est devenu après un lieu de villégiature.
D'ancrage.
D'ancrage, et d'ancrage profond, tout à fait.
Ouais. Ouais. Et vos parents ont fini par poser leurs valises ?
Eh ben non. Non, ensuite ils se sont installés à Paris, pareil, dans plusieurs lieux. Puis à Rennes, ma mère est retournée à Nantes, mon père est parti à Bordeaux. Ça
a bougé.
Le voyage a continué.
Bon.
Après moi.
Et alors, pourquoi l'architecture et comment ?
C'est une vocation qui m'est venue assez rapidement. Je pense que dans cette forêt du Périgord, on construisait des cabanes. Notamment des cabanes dans les arbres. Et très vite, j'ai construit
un petit peu de Baron Perché, alors.
Un petit peu, ouais.
D'Italo Calvino.
Go back to the trees. Ouais. Et en fait, dès la seconde, je crois que je me suis abonné à l'architecture d'aujourd'hui. Vous savez, il y avait les revues là, qui venaient dans les lycées pour proposer les abonnements aux élèves pas trop cher, mais je me suis abonné tout de suite à l'architecture d'aujourd'hui et c'était devenu une idée assez tenace et claire pour moi que c'était une vocation. Et du reste, quand il s'agit de s'inscrire à la sortie du bac dans une... je ne me suis inscrit que à l'école d'architecture de Rennes, ville dans laquelle j'habitais à ce moment-là. Et voilà, et le parcours a commencé avec 4 années à Rennes, puis une année aux Pays-Bas, à Delft, qui était à l'époque pour moi le summum de ce qui se faisait dans l'enseignement de l'architecture. Je me rappelle, j'étais allé visiter Londres, AA, Architectural Association à Londres. J'étais allé visiter les écoles de Barcelone aussi. Et il m'avait semblé, en 99, je crois, que ça se passait plutôt dans les pays, aux Pays-Bas. Voilà, avec les enfants de Colas qui commençaient à s'aimer, qui montaient leurs agences, et il y avait une dynamique assez tout à fait
intéressante
dans ce pays.
Bon. Et donc, le diplôme ?
Et donc, diplôme, étudiant à Rennes, j'ai passé mon diplôme en m'installant à Nantes.
Ouais.
Pourquoi pas? Et puis, après une petite année de travail à Lorient, j'ai acquis la conviction qu'il fallait aller dans une agence un peu plus pointue et un peu plus ambitieuse pour me nourrir de mes envies d'architecture. Et je suis donc venu à Paris postuler. Et c'est Christian Ovette qui m'a ouvert les portes de son agence. Christian Ovette, que je connaissais évidemment de l'école de Rennes, puisqu'il avait été mon directeur de diplôme.
Ah oui,
quand même. Mmh. J'avais pas pu suivre son enseignement, puisqu'en cinquième année, j'étais parti aux Pays-Bas. Et du coup, je l'avais choisi comme directeur de diplôme pour pouvoir le rencontrer. Et quand je suis arrivé à Paris, il m'a pris sous son aile et j'ai passé 10 ans à ses côtés. C'était finalement le prolongement de l'enseignement que j'avais reçu pendant mes études, puisque c'était, en plus d'être un grand architecte, un très grand enseignant, un grand passeur d'architecture. Son agence était un lieu de prolongement de son enseignement de l'architecture, dans lequel c'était très ouvert. Il y avait évidemment beaucoup de... C'était une agence très jeune, et beaucoup de ses anciens étudiants qui étaient là. Et c'était très ouvert à la discussion. C'était une agence très horizontale, il n'y avait pas beaucoup de hiérarchie. On était très rapidement responsables. Le talent n'attendait pas le nombre des années chez Christian Ovette.
Ouais.
On était très vite mis en responsabilité et il avait la conviction qu'il m'a transmise et que je poursuis dans ma propre agence, que pour apprendre le métier, il fallait tout faire. De l'esquisse jusqu'à la livraison. Et donc, on se retrouvait parfois en charge de très gros chantiers.
Et c'est là où on apprend vraiment.
Et c'est là où on apprend vraiment, évidemment.
Mmh. Votre premier gros chantier, c'était lequel ?
Alors, j'avais pas passé 6 mois à l'agence que je me suis retrouvé à conduire un chantier d'une petite tour de logement. Alors, aujourd'hui, quand on dit tour, on pense tout de suite à 28 mètres. À l'époque, c'était déjà 11 étages, donc on y était déjà. Et une petite tour de logement à Courbevoie, je me rappelle. Donc, il y avait une soixantaine de logements sur 11 étages. Et assez complexe, avec des panneaux en béton préfabriqués, tout ça. Donc, il y avait une certaine technicité, puis il y avait un site assez contraint, donc il y avait 3 niveaux de parking en sous-sol. Donc, c'était un projet assez complexe. Et j'étais assez novice,
vous avez réussi ?
On a réussi à monter et à réaliser ce joli bâtiment qui est toujours là.
Alors, avant d'aller plus loin, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Est-ce que vous imaginiez être à votre compte en tout cas et mener vos projets ?
Certainement.
Ouais.
J'avais cette ambition-là, oui, de dessiner en propre mes projets,
ouais.
Ou plutôt les projets qu'on me confierait. Après, quand on sort de l'école, on a plein d'idées, d'ambitions, de rêves, et qui ne correspondent pas toujours à la réalité, finalement. Et je ne pense pas que j'aurais supposé arriver là où j'en suis aujourd'hui, ni même construire les bâtiments que je construis aujourd'hui au sein de mon agence en sortant de l'école. Je n'en aurais pas eu l'idée, parce que finalement, c'est son parcours, c'est les hasards des rencontres, les hasards des commandes aussi, qui forgent votre identité d'architecte au fil de l'eau.
Alors, on a parlé de vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de vos projets ? Je crois que vous avez eu un rôle quand même assez important chez Christian Ovette.
Alors oui, j'ai été 10 ans à ses côtés et 3 ans son associé. Jusqu'à 2011, avril 2011, date de son décès un peu brutal et
accidentel.
Et soudain, qui était inattendu. Donc ça a été une période très douloureuse même. Il y a eu une sorte de passation qui s'est faite, où j'ai conduit l'agence pendant une année.
D'accord, mais il y a eu un rachat par Baumschlager et Burley.
Exactement.
Et vous n'avez pas continué avec...
Alors c'était une période un peu compliquée, où il y avait des discussions pour que ce soit moi qui reprenne l'agence, puis finalement ça n'a pas abouti avec la succession, et donc finalement c'est Baumschlager et Berlet qui ont repris, qui m'ont proposé de continuer, et c'est vrai que moi à cette époque-là j'avais un peu besoin de tourner la page et de repartir sur une page blanche.
De vous recentrer.
Exactement. Et donc, je n'ai pas accepté leur proposition. Néanmoins, on a continué de collaborer, parce que pendant cette année où j'ai géré l'agence, on a fait parmi les projets que j'ai conduits, on a fait un très beau concours qui était le Palais de Justice de Caen.
Mm-hmm.
Et on a rendu ce concours à peu près au moment où je quittais l'agence et où Baumschlager et Berlet reprenaient. Et on a gagné ce concours. Voilà. Et donc, une fois que le concours était gagné, j'ai du coup été associé à Baumschlager et Berlet pour continuer le travail que j'avais commencé. Et donc, du coup, on a collaboré avec Baumschlager et Berlet pendant 2 ans.
D'accord. Donc, vous avez travaillé avec Anne Speicher.
Exactement.
Ouais.
Je l'ai accueillie dans l'agence quand elle m'a remplacé. Et voilà. Et on reste en très bon terme, d'ailleurs. Je déjeune régulièrement avec elle.
Oui, mais on se connaît aussi. Moi, ça remonte à Villemotte. et on l'a interviewé donc comme d'Archi, bien sûr. Donc vos projets, quand et puis comment vous accédez à la commande? Ça a été compliqué, facile? Quelle commande?
C'est jamais facile l'accès à la commande.
Il a fallu repartir un peu de zéro?
Il a fallu repartir de zéro, oui, tout à fait. Alors j'ai eu la chance effectivement d'avoir ce premier projet, le Palais du 6 de Caen. Voilà, mais c'était pour moi un petit projet parce que j'étais juste associé à... Et donc, je suis redevenu, après être mandataire, je suis redevenu co-traitant de ce projet. Et donc après, oui, il y a toujours un temps d'appréciation là, de la part des maîtres d'ouvrage qui vous regardent pendant comment vous tenez le coup. Et puis à un moment donné, la confiance se réinstalle et puis les commandes arrivent progressivement, mais c'est monté tout doucement comme ça pendant ces 10 ans avec un premier concours gagné qui était un palais de justice aussi. À Coutances.
Voilà. Finalement, vous aviez les références.
Exactement, ouais. Les références. Et d'ailleurs, ça a conduit à ce qu'aujourd'hui, on ait une grande partie de notre activité pour le compte du ministère de la Justice, dans le domaine du judiciaire et du pénitentiaire. Et voilà. Et puis, entre autres commandes, donc des commandes de logement aussi, avec des promoteurs avec lesquels que l'on connaissait d'avant.
D'accord.
Qui nous ont... renouveler leur confiance.
Alors, justement, si on peut revenir sur le judiciaire, dans vos références, vous avez des prisons qui ne sont pas vraiment des prisons, qui sont des lieux un peu intermédiaires, dédiés à la réinsertion, c'est ça, des prisonniers?
Tout à fait.
Donc aujourd'hui, on parle énormément de construire des prisons. Vous êtes plutôt vers la sortie, le parcours de sortie des prisonniers. C'est un programme que, très honnêtement, je ne connaissais pas. Vous faites ça avec la Pige. Est-ce que c'est un programme qui existe depuis longtemps au sein des commanditaires? Donc la Pige, c'est l'organe essentiel.
Agence pour l'immobilier de la justice.
Oui.
Alors, effectivement, les structures d'accompagnement vers la sortie, donc on appelle ça les SAS, c'est un programme nouveau qui a été demandé par Nicole Belloubet. L'ancienne garde des Sceaux, et qui est un nouveau programme pour accompagner le parcours de peine des détenus et pour faire un SAS, précisément, entre la période de détention dans un centre de détention et puis le retour à la citoyenneté libre et de plein droit. Et donc, c'est des prisons, effectivement, un peu particulières, avec un niveau de sécurité un peu diminué et des conditions de détention un peu assouplies, on va dire. Voilà. Pour autant, ça reste des établissements pénitentiaires. Ça reste quand même...
De l'enfermement.
De l'enfermement. Alors, pas tout, parce qu'il y a certaines cellules qui sont on appelle ça des QSL, des quartiers de semi-liberté. Donc il y a une partie des détenus qui ont le droit de sortir pendant la journée pour commencer une activité professionnelle, retrouver du travail, le chemin du travail. Mais on travaille aussi sur des centres pénitentiaires, pour le coup, des centres de détention, ou des maisons d'arrêt, qui sont des très grands centres, et on essaye d'y insuffler la même qualité architecturale, enfin la même ambition architecturale.
Oui, parce que sur vos projets de SAS, je trouve qu'il y a une vraie qualité architecturale, et donc vous arrivez aussi à le faire sur les prisons.
On essaye de le faire aussi sur les prisons, ouais, tout à fait. L'idée qu'on poursuit, c'est de changer de paradigme, enfin de changer d'image, de représentation de la prison, de passer de l'esthétique de la privation de liberté, c'est-à-dire le mur avec la porte, voilà, un truc très, très dur, vers plutôt une esthétique d'un équipement public au service de la réinsertion. J'aime bien, moi, appeler ces bâtiments, même si c'est pas le terme qui leur est consacré, des universités de la citoyenneté. Plus comme une intention de programme à venir. Mais pour autant, c'est ce qui était inscrit dans la loi, c'est que pendant la privation de liberté, ce qui est la sanction que notre démocratie inflige aux personnes qui ont fauté, qui n'ont pas respecté la loi, la privation de liberté, c'est la sanction suprême.
C'est aussi parfois protéger les citoyens eux-mêmes.
Bien sûr, c'est protéger les citoyens, donc c'est privé de liberté, mais ça doit être que ça, la sanction. Et donc, une fois qu'on a privé de liberté les détenus, au sein de l'établissement financier, ils doivent pouvoir se reconstruire, se reconstruire en tant que citoyens, parce que demain, ils sortent de prison et ça redevient des citoyens lambda. Et si on les a pas aidés pendant leur période de détention à se resocialiser, à retrouver un métier, enfin une voie professionnelle, etc., ben, ça ne peut être qu'un échec le temps de l'enfermement. Donc c'est pour ça que il y a beaucoup de programmes qui sont prévus par la loi à l'intérieur des prisons, qui sont les pôles de réinsertion où on apprend aux prisonniers soit des nouveaux métiers, soit des lieux de resocialisation, en fait. Voilà.
Ateliers
de fabrication. Alors évidemment, ça passe aussi par le sport d'équipe, etc. Il y a tout un tas de programmes qui est, on peut le déplorer, peut-être un peu trop faible, pas suffisant, comparé à d'autres pays.
Oui, je crois que Arte avait fait diffuser une série de documentaires sur les prisons partout dans le monde. Et en fait, les prisons nordiques sont très, très humanisées.
Tout à fait.
Mais en même temps, il y a des prisonniers qui sont tellement déshumanisés que le parcours de réinsertion n'est pas possible.
On parle là, pour ces prisonniers, ces cas-là, d'une très, très faible minorité du nombre de détenus. En réalité, la grande majorité des détenus... sont là pour des faits qui sont certes répréhensibles et qui justifient ces sanctions, mais qui n'en font pas non plus des monstres irréconciliables avec la société. Ces cas-là sont quand même une très faible minorité de la population carcérale, et c'est pour ça que on se doit, en tant qu'architecte, de penser à cette majorité de détenus qui ont fauté, mais qui vont redevenir des citoyens demain, et donc c'est pour ça que la qualité architecturale des lieux qu'on leur propose, des lieux de vie qu'on leur propose...
C'est peut-être de les reconnecter avec des émotions aussi.
Tout à fait, oui. Des émotions architecturales. Alors, on s'adresse aux détenus, mais on s'adresse aussi à toute une autre population qui n'a pas forcément choisi d'être là, même si les détenus n'ont pas choisi, mais ils en sont la cause. C'est tout le personnel pénitentiaire, les surveillants, pour qui c'est un lieu de travail. Et c'est un lieu de travail, donc au quotidien, qu'ils pratiquent. C'est à la fois un outil de travail pour eux, mais aussi un lieu d'échange avec leurs collègues et de travail avec les détenus. Et pour eux aussi, on se doit de faire de penser, de concevoir et de construire des lieux de qualité, tous les sens du terme, qualité architecturale, au sens large du terme. C'est ce que nous nous efforçons de faire dans les projets que nous réalisons pour la pige.
De la sécurité tout en nuances, finalement.
Tout à fait. La sécurité, c'est la base du programme. Et ensuite, c'est toutes les qualités qu'on peut apporter en plus, des qualités de qualité architecturale, de lumière, de parcours, de matériaux, des formes, des rappels aussi à la mémoire collective dans le projet, un projet qu'on est en train de construire qui est en chantier là actuellement, c'est la SAS de Noisy-le-Grand. On a essayé de réactualiser l'image du cloître, qui est l'image qui a servi à l'origine pour construire les premiers centres de détention, qui parfois d'ailleurs, certains centres de détention se sont installés dans des anciens couvents. Il y en a encore quelques-uns en France. Et donc de réactualiser cette image-là, avec ces galeries couvertes, avec ces arcades, tout ça, pour réanoblir cet équipement public et le réinscrire dans le cortège de tous ces grands équipements publics qui ont structuré notre territoire et qui étaient des bâtiments transfonctionnels, en fait, qui étaient conçus à l'origine, au 19e et même avant, comme des bâtiments transfonctionnels c'était avant tout des équipements publics au service de l'intérêt général. Et ils pouvaient accueillir un moment un établissement scolaire, un moment un hôpital, un moment une caserne, un moment dans son histoire. Et on voit là, on a tous été dans un lycée qui avait été précédemment un hospice ou une caserne, voilà. Et c'est des bâtiments qui ont su évoluer avec le temps et qui étaient vraiment au service de l'intérêt général. Donc voilà ce qu'on essaye de nous, quand on dessine ces équipements publics un peu particuliers, c'est toujours de se projeter dans une possible réutilisation et en tout cas dans l'idée de l'intérêt général, c'est-à-dire d'un équipement public qui est au service de la société aujourd'hui, mais aussi demain.
Donc de la pérennité, de la qualité de la construction.
Tout à fait, oui.
Donc ce programme, c'est aussi travailler sur l'intériorité, c'est travailler avec la lumière, ce que c'est la connexion. Vous pouvez en dire un peu plus ?
Il y a une chose qui est très marquante, moi, qui m'a frappé quand j'ai commencé à travailler dans le, dans ce monde pénitentiaire un peu fermé, parce que c'est, alors c'est sans jeu de mots, hein, c'est un monde fermé, parce qu'il y a peu finalement d'acteurs dans le domaine de la construction et de la conception qui travaillent dans ce, sur ces programmes. Ce qui m'a frappé le plus, c'était les stigmates que portaient les détenus après une longue période de détention. Je parle de stigmates parce qu'il y a des vrais... ça touche le corps des détenus, cette détention, et ça, on n'en a pas beaucoup conscience. On se dit toujours, oh, les détenus, ils ont une chambre avec une douche et une cuisine.
Ils ont la télé, c'est comme à l'hôtel.
Ouais. Sauf que quand on regarde un peu l'effet, l'impact physique de la détention, on s'aperçoit que c'est très rude pour le corps, et notamment pour les yeux, pour la vue, où on s'aperçoit qu'il y a quasiment systématiquement une baisse de l'acuité visuelle des détenus, parce que, pour la simple et bonne raison, qu'il y a un manque de travail du nerf oculaire dans le travail de vision proche et lointain, qui est un exercice qui permet à l'œil de se régénérer et puis de se muscler. Et donc le travail sur justement la perception qu'on est détenu sur le lointain, sur le proche, et la lumière qu'on leur propose dans les différents lieux de détention est assez fondamental, en fait, pour pouvoir leur offrir des conditions de vie dignes.
Ouais, c'est un sujet grave, donc.
Oui, c'est un sujet un peu lourd et en même temps, qui nécessite de notre part, je dis à nous les architectes, un engagement assez intense et profond, qui est un exercice aussi assez difficile parce que il faut savoir que toutes les prisons sont faites en conception-réalisation. Conception-réalisation, donc avec un mandataire qui est l'entreprise de construction, et qui est un exercice assez, assez délicat, c'est un sport particulier, la conception-réalisation, et dans lequel l'architecte est un tout petit peu excentré, alors que normalement notre position c'est vraiment au centre, mais qui malgré tout offre quand même la possibilité de faire notre travail, mais avec il faut un engagement de chaque instant pour tenir toutes ces petites attentions portées, ces petites attentions architecturales qui à la fin produisent et les défendre et les faire tenir d'un bout à l'autre du projet pour qu'elles finissent par être offertes.
Et ça se traduit en architecture par beaucoup de muralité quand même, parce que l'incarcération, donc c'est ne pas sortir. Est-ce que c'est toujours le voile béton qui remplit cette fonction, ou est-ce que vous arrivez à travailler en poteau-poutre ou avec, par exemple, des charpentes, je dis peut-être n'importe quoi, hein, charpentes bois, charpentes métalliques, mais qui peuvent se démonter.
Alors, donc, on a une culture en France du béton assez ancrée, et une idée que effectivement le béton... Le béton est est le seul matériau
difficile
à être franchi. Pour autant, il est franchissable. On a des exemples qui ont réussi à percer les 16 cm de mur de béton qui les éloignent de leurs voisins. Ça arrive, on le voit. Et il y a une anecdote que j'aime beaucoup rappeler, c'est la Belgique qui considère que quand on essaye de s'évader, on n'est pas coupable.
Ah bon ?
Ouais. Et un détenu qui s'évade en Belgique, pour autant qu'il n'ait commis aucun crime, c'est-à-dire physique, détérioration matérielle, ni atteinte aux personnes, au personnel, il ne peut pas être jugé coupable de cette envie d'évasion, parce que la liberté est plus forte, et puis est une volonté supérieure de l'homme.
Finalement, un très bon réflexe.
Exactement. Ouais. Et quand le prisonnier n'a pas détérioré, et qu'il est ramené en prison, sa peine ne bougera pas.
Voilà, c'est vrai que ça me rappelle les films de l'époque des années 70, avec Alain Delon, toute cette génération, on les voit s'évader, on n'est que en empathie avec le mec qui s'évade.
Toujours. On est toujours du côté de celui qui va s'évader. c'est instinctif en l'homme, on a besoin de liberté.
Ouais. C'est fort intéressant ce que vous dites. Alors maintenant, vos logements, notamment cette opération à Bru, où il y a des cerfs un peu perchés dans le ciel, ce qu'on voit sur les images. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ?
Alors, c'est une longue histoire.
Ouais.
C'est une longue histoire qui commence là où a commencé ma carrière professionnelle avec Christian Ovett. C'était en 2005, on répond à un concours. On avait construit avec le groupe Launay une opération de logement qui était à Mordel, qui avait, voilà, qui avait très bien marché. On fait une belle collaboration avec le groupe Launay, et puis ils nous avaient rappelé pour faire un concours. Et c'était en 2005, en France, le sursaut un petit peu sur les questions environnementales, avec les grenelles de l'environnement, tout ça. Donc tout le monde parlait de ça, tout le monde s'agitait autour de ces thématiques. Et tous les maires de France et de Navarre voulaient leur écoquartier, parce que c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Et donc on répond à cette candidature à Champy, et le maire avait dit il nous faut un projet exemplaire, totalement exemplaire, et un projet phare pour la ville. Et donc c'était la dernière parcelle d'une ZAC à Champy, et pour rendre ce projet phare, exemplaire, ils avaient déplafonné le PLU, et on pouvait faire une tour à R+8 au milieu des champs, d'une ZAC un peu très, très végétalisé. Et à l'époque, j'avais conduit le projet, on avait dit, mais ça n'a pas de sens de monter en ascenseur au 8e étage, alors qu'il y a une densité très faible. On avait finalement répondu avec l'idée de réactualiser cette vieille utopie, cette utopie fourriériste construite par Jean-Baptiste Godin, à Guise,
Du Familistère,
voilà. On a dit, c'est une idée extraordinaire de travailler sur la serre bioclimatique. Voilà. C'était à la fois porter une ambition environnementale autour de cette serre bioclimatique, et en même temps une ambition évidemment sociale au travers de ce projet. Et je me rappelle, on était en concurrence, on était finaliste du concours avec CDM, Combarel et Marek, qui eux avaient joué le jeu de la tour. Et du coup, pour nous départager, le maire nous avait invités à l'oral, et on avait défendu donc cette idée que il fallait rester dans les mêmes hauteurs que le reste du quartier, mais porter les ambitions ailleurs. Et on a gagné ce concours. Et en fait, quand on a eu gagné le concours et qu'on a fait notre première réunion avec le bureau de contrôle, ça a été une toute autre affaire, parce qu'on s'est rendu compte que pas beaucoup de nos réglementations françaises ne prévoyaient un cas de figure pareil, et a commencé une longue bataille réglementaire pour pouvoir construire ce projet. Et donc, classification, réalisation expérimentale,
ouais.
Travail de négociation avec les ministères. On a obtenu 3 dérogations, 2 dérogations ministérielles et une dérogation préfectorale avec les pompiers, pour pouvoir construire ce projet. Et le projet a été un succès, à la fois commercial, mais aussi technique et architectural. Il a obtenu quelques prix qui l'ont honoré. Et puis, comme c'était une opération expérimentale, elle a été étudiée par les services de l'État pour vérifier a posteriori si tous les calculs qu'on avait faits fonctionnaient, et ça fonctionnait bien.
Mmh.
Et alors, je rappelle juste le principe de base, c'est un bâtiment en îlot, avec un jardin au centre, et puis une distribution des logements par des coursives, donc qui sont abritées dans ce jardin couvert. Et cette disposition permet de faire 100% des logements double orientation.
Mmh.
Et 90% traversants, avec une innovation en termes de typologie de logement, qui sont les séjours traversants, qui permet de ventiler le logement, qui permet d'avoir une vue sur l'environnement extérieur et sur la serre intérieure, etc. Et puis, donc, ce jardin couvert et cette serre bioclimatique, donc la moitié du renouvellement d'air des logements se fait en puisant l'air dans la serre. Et donc l'air de la serre, c'est un air qui est contrôlé, qui est renouvelé naturellement. Donc ça agit comme une véranda, à l'échelle d'une maison individuelle, mais là, à une beaucoup plus grande échelle. Et donc l'air à l'intérieur de cette serre, on a un climat un peu méditerranéen en réalité.
D'accord.
Voilà. Et donc, fort de cette expérience avec le groupe Launay, et de tous ces retours d'expérience que nous ont donné les services de l'État là, au travers de ce rapport, eh bien, quelques années plus tard, donc en 2016, Franck Launay, donc le patron du groupe, m'a appelé pour me proposer de
réinvestir voilà, ce projet.
De reproduire.
Ce programme.
Alors, pas le reproduire exactement, mais disons de le réengager, la réflexion autour de cette typologie de bâtiment. Et à Bru, cette fois-ci, donc il avait fait visiter le maire de Bru avait visité. Précédente opération, il était émerveillé, il dit, je veux la même dans la commune. Donc on a trouvé un très beau terrain derrière le plein centre-ville, derrière l'église. Et puis on a commencé cette nouvelle réflexion. Et donc on a réactualisé finalement le projet et en le remettant au goût du jour. Et notamment, je suis pas peu fier d'avoir été d'avoir fait une des premières réalisations à anticiper la RE 2020 qui abandonne le gaz. Et je me rappelle, je crois qu'on a commencé nos réflexions fin 2015. Et en 2016, quand on a commencé à produire les premières esquisses, j'ai dit au groupe Launay, un truc qui serait formidable, c'est de faire un bâtiment tout électrique. Parce que toutes les énergies renouvelables qu'on produit, ça produit de l'électricité. Quoi. L'éolien, le solaire, l'hydrolien, enfin tout, ça produit de l'électricité avant tout. Et donc, je ne m'étais pas trompé à l'époque. L'actualité...
Là, on est en plein dedans.
Voilà,
le prouve.
Le prouve. Et puis, au passage aussi, on a amélioré des choses, notamment la position des passerelles au sein de ce jardin couvert que l'on a fait, qui était dans le premier projet, qui était périphérique. Les passerelles longeaient les logements. Là, on a fait des passerelles rayonnantes depuis le centre pour à la fois améliorer les vues et l'intimité dans les logements et puis améliorer aussi la lumière naturelle. Donc voilà, il y a tout un tas de dispositifs qui ont évolué entre les deux projets. Et on a livré le projet, donc a déjà aussi obtenu quelques prix de la part de la profession.
Et, quel prix ?
Les pyramides d'or de l'innovation.
Voilà. D'accord. C'est rare d'avoir un maître d'ouvrage qui va aussi loin dans une démarche architecturale, écologique.
Alors, oui, on peut le dire. C'est vrai qu'il faut saluer
l'audace
et la ténacité du groupe Launay. En même temps, c'est un projet assez... hormis ces problématiques réglementaires qu'il faut, avec lesquelles il faut à chaque fois s'adapter, c'est un projet assez simple. Assez classique. Finalement, il n'y a pas de problème de commercialisation. Au contraire, les gens sont ravis. En général, les deux opérations, ils les ont vendues très facilement. La seule contrainte qu'il y a, c'est l'échelle du projet qui doit compter une petite centaine de logements au minimum pour pouvoir créer ce dispositif. Mais une fois qu'on a ça, c'est un modèle qui est tout à fait reproductible par n'importe quel promoteur, dans n'importe quelle situation. Parce que c'est un projet assez, finalement assez rationnel, assez économique, de par sa composition.
De mémoire, il y a des serres sur le toit, c'est ça ?
Voilà, donc c'est toujours un bâtiment en îlot, là, sur quatre côtés. Il y a des grandes ouvertures dans cet anneau de logement pour faire des halls très majestueux. Et puis, donc, il y a cette serre qui couvre le jardin central et qui couvre donc, les circulations. Donc, on est toujours protégé des intempéries quand on parcourt le bâtiment jusqu'à son logement. Et puis, sur le toit, alors, notre différence aussi, c'est qu'on a... On a mis l'accent dans cette opération à Bru sur le vivre ensemble. Ça, c'était quelque chose qu'on avait moins traité la première fois. Et cette fois-ci, il y a eu une vraie réflexion sur comment finalement accompagner cette copropriété dans cette vie commune. Et pour cela, on a donc il y a une loge gardien qui a été installé avec un gardien qui vient au service de la copropriété, qui gère notamment la réservation d'une chambre commune. C'est un petit appartement, comme un petit studio que les gens peuvent réserver pour accueillir un parent, un ami, occasionnellement.
Ça marche bien, ça.
Et puis, on a fait une salle commune également sur le toit et puis une très grande terrasse à moitié couverte, à moitié découverte, avec des grands bacs jardinables sur le toit qui sont à la libre occupation des copropriétaires. Et puis également, sous cette serre, dans le jardin, on a fait une petite place, on a aménagé une petite place pour qu'ils puissent accueillir des événements. le déjeuner des voisins, voilà, quelques fêtes qui puissent animer cette copropriété.
Donc l'espace central, c'est un patio intérieur,
voilà,
avec un atrium en fait. Mmh. Est-ce que ça vous a permis de faire des économies sur les traitements de façade intérieure, le fait que ça soit couvert ou non?
Pas particulièrement, parce qu'en réalité, on doit une étanchéité des façades, quoi qu'il arrive, à l'intérieur. En revanche, la disposition fait que, et puis l'histoire du premier, nous conduit à une réflexion sur le confort acoustique de cet espace, qui n'est pour le coup pas réglementaire. Mmh. On n'est pas tenu de le faire, mais on s'est aperçu dans la première opération que c'était une qualité très importante de ce lieu. C'est le confort acoustique à l'intérieur de cette cour commune. Et du coup, on a habillé une bonne partie des façades intérieures avec des panneaux acoustiques. À Bru, on les a traités avec une tôle anodisée perforée qui reflète la lumière et qui du coup agrandit un peu l'espace intérieur, reflète le vert de la végétation, offre une qualité architecturale un peu supérieure et surtout une qualité, un confort à l'intérieur de la serre qui est tout à fait appréciable et apprécié.
Super. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose concernant vos projets ? Logement, carcéral.
Ouais, alors l'agence travaille pour le moment, mais parce que c'est le hasard de la commande. On travaille donc beaucoup pour la justice. Là, on est en train de livrer le palais de justice de Tours, qui est une restructuration dans un secteur sauvegardé, donc avec un travail sur le patrimoine assez important. Et on travaille, on a donc le palais de justice de Coutances également, qui est en cours toujours. On va bientôt débuter des études pour le palais de justice de Cayenne. Et puis on a travaillé aussi sur l'enseignement supérieur, dans l'enseignement supérieur, au Havre notamment.
Oui, c'est vrai.
On a livré l'année dernière l'école de management de Normandie, là, en association avec Groupe 6. Et c'était aussi un conception-réalisation.
Puis Ovette avait un bâtiment avec Christian, très emblématique.
Avec Christian, on avait fait, c'est moi qui étais chef de projet aussi à l'époque, le Sciences Po INSA au Havre, qui est juste de l'autre côté du bassin de l'UMM.
Qui est un bâtiment assez noir.
Un bâtiment assez sombre. Alors, noir, non. Les poteaux, effectivement, sont noirs, mais tout l'habillage entre les poteaux est une tôle perforée anodisée également, en aluminium anodisé, qui protège le bâtiment à la fois des embruns et aussi du soleil, qui n'a pas pris une ride d'ailleurs, parce qu'on a pu le revoir quotidiennement, quasi en suivant le chantier de l'école de management de Normandie.
Dans ce que vous dites, on sent vraiment la filiation avec Christian Ouvette. Je trouve que c'est vraiment fascinant et intéressant. Et je pense que par rapport aux étudiants qui nous écoutent, ça peut-être renforcer l'idée que la transmission dans ce métier-là est quand même très importante.
Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est vrai que d'apprendre aux côtés de ses pairs, c'est quelque chose qui me semble assez fondamental. On apprend de ses pairs dans les écoles d'architecture, mais apprendre sur le terrain, c'est-à-dire dans le réel, c'est encore plus fondamental.
Et comment est composée votre équipe ?
Alors l'équipe s'est construite petit à petit, donc on est une petite dizaine de collaborateurs. C'est quasi exclusivement des diplômés en architecture. J'oubliais de dire que j'ai une autre casquette également, je suis conseiller ordinal au Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Donc j'attache une importance toute particulière au respect du titre.
Oui, la défense de la profession.
Défense de l'intérêt général et défense de l'architecture.
Oui.
Voilà. Mais donc oui, des diplômés en architecture au sein de mon agence. Donc voilà, une équipe de valeureux combattants de la noble cause de l'architecture.
Bon, alors, question vaste. Comment imaginez-vous le monde de demain ?
Difficile question. Ouais. Difficile question parce que... Parce qu'effectivement, avec ce qu'on connaît aujourd'hui de l'évolution de notre environnement habitable, on se dit que les architectes ont une grande responsabilité dans la fabrication de notre environnement et que si on lit les différents rapports du GIEC, on pourrait en arriver à se dire qu'il ne faut plus rien construire, qu'il faut arrêter de,
Bien sûr. Il faut arrêter de
prélever des ressources et qu'il faut faire avec ce qu'on a déjà prélevé pour et juste réparer, réactualiser et rénover le parc que l'on a déjà construit. En même temps, on ne peut pas non plus se passer non plus de bâtiments qui font sens dans notre société et qui donnent un peu les valeurs. Quand je construis un palais de justice, il faut que ça ancre le pouvoir régalien de l'État dans le territoire. Et donc, on ne peut pas, malgré cette injonction de construire moins et de se concentrer plus sur la rénovation. Et on aura toujours besoin, malgré tout, de bâtiments un peu emblématiques qui marquent la société, qui sont des jalons de notre vie sociale. Un palais de justice, par exemple, il a besoin de représenter ce qu'à l'instant T, on projette dans la justice de notre pays. Voilà. Mmh. Et les autres équipements publics, c'est du même ordre.
Oui, voilà. Je pense au palais de justice de Nantes qui a été réalisé par Jean Nouvel. Pourtant, celui qui existait était aussi emblématique de la justice, avec cette architecture historique. Néanmoins, les besoins évoluent. Et du coup, certains bâtiments peuvent être réhabilités avec d'autres programmes et il faut reconstruire plus en adéquation avec les exigences des métiers, des administrations.
Et pas simplement uniquement fonctionnelle. La réactualisation, elle n'est pas uniquement fonctionnelle.
Oui.
Elle est aussi dans l'esthétique et dans les valeurs qui sont portées par l'image, l'esthétique du bâtiment. Prenez l'exemple des palais de justice du 19e. On vient d'en réhabiliter un là, à Tours. Il y avait ce besoin à la fois fonctionnel de redonner un accès pour tous au bâtiment, mais aussi de renouveler un peu l'image de cet accueil du justiciable au sein de l'institution, et donc de renouveler un peu renouveler l'image que l'on veut porter de la justice aujourd'hui.
Bon. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ?
Quel conseil ? Je ne suis pas sûr d'avoir
de conseils à
donner aux étudiants. Je pense qu'ils sont d'une génération qui n'est plus la mienne. Et je pense que les enjeux auxquels ma génération a fait face à mon époque ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Alors, je me garderais bien de leur conseiller quoi que ce soit, même si évidemment, et je pense que c'est une génération qui a pris pleinement conscience des enjeux environnementaux aujourd'hui, bien plus que nous à notre époque. Et du coup, je pense qu'ils seront plus à même que nous l'avons été de relever ces défis-là et de parcourir. Donc respect à cette nouvelle génération qui arrive et qui va venir collaborer avec nous, avec l'ancienne génération, pour essayer de continuer à marcher sur les chemins étroits et sinueux de l'architecture.
Un mot de la fin ?
Un mot de la fin, merci de cette invitation.
C'était avec grand plaisir, c'était très fluide et fort intéressant. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas votre numéro en anglais et prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.